Allez, notre séance cinéma du mercredi commence. Avec vous Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Programme chargé ce 28 mars avec 19 nouvelles sorties. Avant d'en détailler quelques-unes, faisons le point, s'il vous plaît, sur le box-office.
Avec nos amis du site cbo.fr, Franck Dubosc confirme en deuxième semaine « Tout le monde debout », la comédie RTL atteint 1 350 000 spectateurs. Danny Boone, lui, continue de grignoter l'avance des Tuches 3. La Ch'ti de famille, autre film RTL, a maintenant dépassé les 5 millions et le film d'Olivier Barou cumule 5 650 000. On va continuer de suivre le match. À noter le beau démarrage de la finale avec Thierry Lhermitte et Ryan Bensetti. On est autour des 250 000 entrées. Et celui difficile d'Abdelatif Kechiche avec Mektoum My Love, 50 000 spectateurs. On sera à l'arrivée très loin du score de La vie d'Adèle et son million d'entrées.
Et nous faisons donc place au nouveau film à l'affiche. Et vous nous proposez tout d'abord, Stéphane, une plongée dans le dernier film du studio Disney Nature.
Studio créé par un Français, Jean-François Camilleri, patron du studio Disney France. Voici donc Blue, somptueux documentaire qui nous embarque pour un tour du monde, des océans, des contrées chaudes, auprès d'animaux surprenants de grâce, de beauté, d'intelligence aussi. Film réalisé par les auteurs de Un jour sur Terre, Chimpanzé ou encore Félin. Autre film de la marque Disney Nature. Alors on y croise des dauphins, mais aussi des baleines, des orques, des calamars caméléons et une incroyable squie multicolore, une sorte de crevette menthe religieuse, incroyable. De vrais personnages. Mais on est entre les deux.
Ah bon.
On est exactement entre les deux, avec des gros yeux qui voient tout. De vrais personnages au service d'une déclaration d'amour à cet élément liquide qui compose, on le sait, l'essentiel de notre planète bleue. C'est Cécile de France qui prête sa voix à ce documentaire. Et je lui ai demandé quels animaux l'avaient particulièrement ému dans Blue.
C'est vrai que les mammifères marins ont... On a plutôt tendance naturellement à s'identifier à eux. Alors c'est vrai que la scène d'apprentissage de pêche qu'a la mère dauphin pour son petit est assez incroyable. Franchement, c'est une preuve magnifique d'intelligence et de transmission et de culture et de tradition aussi. Et également, bon, ça c'est parce que je suis maman, hein, donc j'ai mon deuxième exemple qui est un peu dans le même thème, c'est la mère baleine qui appelle à la rescousse en envoyant un signal de détresse à des mâles baleines qui sont très très loin. Et qui pourtant reçoivent le message et qui viennent sauver le baleineau qui est menacé par les orques qui veulent le manger, quoi.
Blue de Disney Nature à admirer en salle ce mercredi avec RTL. Notez que 1 euro sera prélevé sur chaque ticket vendu durant la première semaine d'exploitation et reversé à la fondation Tara Expédition, dont la goélette sillonne les océans depuis 2 ans pour identifier les récifs coralliens en danger.
Rien que les images de la bande annonce sont absolument
somptueuses. Ils ont créé des studios sous la mer. En fait,
ils ont créé une nouvelle caméra, enfin, c'est fou.
Vous revenez également, Stéphane, sur la sortie événement de Ready Player One, le dernier Spielberg.
On y trouve tout ce qui nous fait aimer le cinoche, de l'ampleur, du cœur, de l'action, de l'humour, des valeurs, bref, tout ce qui fait aussi le cinéma de Spielberg. Ready Player One nous emmène dans le futur et parle d'un monde virtuel truffé de références que nous avons tous croisées en grandissant devant un écran. Alors, petit cours de cinéma, tiens, ce matin. Savez-vous ce qu'on appelle un blockbuster ?
Ah bah oui.
C'est une super production
qui est destinée à tout casser.
Absolument.
Eh ben voilà. Figurez-vous que la légende veut que ce soit Spielberg
et, dans de la mer.
Et George Lucas avec La Guerre des Étoiles qui ont inventé ce genre dans les années 70. Voici l'avis du maître.
Je ne pense pas que George Lucas et moi avons inventé le blockbuster. J'estime que tout a commencé avec D.W. Griffith, qui est le premier à attirer les foules dans les cinémas. Puis David O. Selznick et Victor Fleming ont fait Autant emporte le vent. William Wyler a tourné Ben-Hur et Cecil B. DeMille a réalisé Les Dix Commandements. Il y a eu tellement de super productions avant Les Dents de la Mer ou Star Wars 2 ans plus tard. Alors, peut-être avons-nous fait évoluer le genre. Avant, ces films sortaient dans peu de salles, mais restaient parfois 1 an à l'affiche. Les Dents de la Mer est sorti sur presque 500 écrans en même temps, nombre jamais atteint auparavant, et ça a donné des idées à Hollywood. On pouvait désormais concentrer le maximum de public sur les 3 jours d'un week-end d'ouverture. Alors oui, d'un point de vue commercial, les Dents de la Mer et Star Wars ont défini le fait qu'un blockbuster devait rassembler le plus de monde en un minimum de temps.
Petite surprise à la fin, évidemment. La musique des Dents de la Mer, premier classique de Spielberg. En 75, ne ratez pas Ready Player One au cinéma. Aujourd'hui, jetez un œil aussi à The Rider, épatant grand prix du dernier festival du film américain de Deauville. L'histoire d'un jeune prodige du rodéo obligé de se réinventer un corps et une vie après un accident. Et puis, côté cinéma français, je vous rappelle la sortie, on en parlait lundi, du nouveau film de Jean Becker, Le Collier Rouge, avec François Cluzet et Nicolas Duvauchel. Adaptation du roman de Jean-Christophe Ruffin qui se déroule dans dans l'après-guerre 14-18.
Jean-Christophe Ruffin qui était notre invité hier. Absolument. Alors, parmi les curiosités de la semaine, Stéphane, il y a Marie-Madeleine de l'Australien Garth Davis.
Cours de catéchisme passionnant parce qu'il nous replonge aux racines du destin de cette jeune femme, une des premières disciples de Jésus que l'Église a décidé de transformer en prostituée à la fin du 6e siècle, avant de la réhabiliter, il n'est jamais trop tard, en 2016, figurez-vous. Le film montre la ferveur des apôtres pour celui qu'ils considèrent comme le Messie, mais nous épargne tout le décorum pesant et pontifiant habituel de ce genre de production. Pas de manifestation divine, juste la foi de ce groupe de fidèles et de cet homme mort sur la croix. Marie-Madeleine, c'est Rooney Mara. Jésus, c'est Joachim Phoenix, à peu près sobre pour une fois. Et Judas, personnage essentiel, eh ben c'est Tahar Rahim, formidable dans ce rôle assez rare pour un comédien.
Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont eu l'opportunité de jouer Judas. Et quand je découvre ce Judas-là, je me dis, alors ça, ouais, carrément. Parce que justement, c'est une vision parmi tant d'autres de Judas qui est très différente et qui va plutôt dans le sens du pardon et dans le sens de la traîtrise par inadvertance. C'est un illuminé qui a une foi démesurée. C'est un fanatique de Jésus. Sauf que c'est légitime, puisqu'il a vu Jésus ressusciter un mort devant lui, rendre la vue aux aveugles. Donc il croit fermement dans le fait que Jésus va lui ramener sa défunte famille, donc sa femme et sa fille. Et le problème, c'est qu'il en est tellement excité et tellement impatient qu'il va commettre l'irréparable. Il va pousser Jésus dans les bras des Romains, en pensant que Jésus fera venir le royaume plus rapidement.
Tahar Rahim, impeccable dans le très épuré Marie-Madeleine à voir au cinéma. Et voilà, c'est pas faux, il a aussi été un prophète. À l'affiche également, la comédie Les Dents Pipi au lit d'Emmanuel Gilbert, énième version du tandem de colocataires, vous savez, qui ont tout pour se détester, mais qui vont finir par s'apprécier et plus, voire si affinité. Arnaud Ducret, heureusement, est là et sauve les meubles.
Vous terminez avec un film d'animation, Croblin.
Ben là aussi, vous me direz que c'est une énième version du roman de Jack London et je vous répondrai que la nouveauté est d'avoir construit le film d'après le point de vue de ce chien loup recueilli par les Indiens. Exactement. Cédé à un homme cruel et sauvé par un couple plein d'humanité, l'animal devra apprendre à maîtriser l'instinct sauvage. Le film était tourné en format scope, c'est très rare, avec un choix graphique extrêmement réaliste. De vrais acteurs ont été filmés puis insérés dans le dessin, ce qui évite de doter les animaux de la parole, laquelle est réservée aux personnages humains, comme Virginie Efira.
Ma fille, par exemple, j'essaie de lui montrer des choses où la narration n'est pas toujours la même. Il y a différentes formes de narration et de possibilités. Donc, Roblin, je lui ai montré, j'ai vu son enthousiasme. Je lui ai montré un autre film qui ressemble quelque part, Crin Blanc, un film des années 50. Il n'y a pas une parole non plus. Et ça, du coup, il y a tout un endroit où un enfant, un adulte aussi, évidemment, et heureusement, peut se projeter à l'intérieur des choses. Tout ne lui est pas dit. Et je pense que c'est extrêmement important pour tous les âges. Et certainement, chez un enfant, on pourrait se dire non, il ne va pas tout comprendre, il faut lui dire ci, il faut lui dire ça. Certainement pas. En fait, il comprend absolument tout. Et il y a une possibilité d'imaginaire aussi quand on laisse de l'espace.
Virginie Efira, mais aussi Raphaël Personnaz, donc au casting voix de Croblin, à découvrir au cinéma ce 28 mars.
J'adore parce que j'aime beaucoup la voix de Virginie Efira. Ouais. Et là, ça y est, j'ai réentendu une toute petite pointe d'accent belge.
D'accent belge.
Toute petite.